En Éthiopie, le groupe terroriste du TPLF dans la région du Tigré ont à leur tour, après le gouvernement éthiopien mis sur pied, une équipe de négociateurs pour discuter de la paix, comme l'a annoncé lundi un de leurs porte-parole. Le 14 juillet, donc au lendemain de la première réunion de son propre comité de négociation, le gouvernement fédéral éthiopien en guerre depuis novembre 2020 contre les rebelles du Tigré avait accusé ces derniers de n'avoir pris jusqu'ici aucune mesure en faveur de la paix. Ni date, ni lieu, ni cadre n'ont pour l'heure donc été fixés pour ces futures négociations, évoquées pour la première fois en mi-juin par le Premier ministre Abiy Ahmed. Et les deux parties continuent de diverger donc sur l'identité du futur médiateur, alors qu'Addis Abeba ne veut discuter que sous les auspices de l'Union africaine, les rebelles exigent une médiation du président kényan Uhuru Kenyatta. De plus, la situation a l'air de s'arranger avec le Soudan. Dans un communiqué publié le dimanche 17 juillet, le porte-parole de l'armée soudanaise, le général de brigade Nabil Abdallah Ali, a déclaré que le comité technique du Conseil de sécurité et de défense, présidé par le chef du Conseil souverain, a décidé d'ouvrir le point de passage de Galabat, un point de passage commercial clé entre les deux pays à partir de ce dimanche, selon les dépêches soudanaises. La dernière tension entre les deux pays est survenue après que le Soudan a accusé le 27 juin l'armée éthiopienne d'avoir capturé et exécuté 7 soldats soudanais et un civil. L'Éthiopie a déclaré qu'elle regrette les pertes en vies humaines, donc à la suite d'une escarmouche entre l'armée soudanaise et une milice locale sur laquelle une enquête sera menée prochainement. Le gouvernement éthiopien a estimé que l'incident a été délibérément concocté pour saper les relations profondément enracinées entre les peuples éthiopiens et soudanais. En plus de cela, l'incident visait à détruire l'Éthiopie de sa voie de paix et de développement. Le gouvernement éthiopien reste cependant attaché au principe de résolution à l'amiable des différends entre les États, a déclaré le ministre éthiopien des Affaires étrangères. Cependant, le ministre et les forces armées nationales donc, ont rejeté les accusations selon lesquelles ces derniers auraient été impliqués dans la capture et l'exécution des 7 soldats soudanais et d'un civil. Lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement organisé par l'autorité intergouvernementale pour le développement qui s'est tenu donc le 5 juillet à Nairobi au Kenya, le Premier ministre Abiy Ahmed et le dirigeant soudanais, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, se sont rencontrés en personne et discuté de la question. Et par la suite, les deux dirigeants ont déclaré donc qu'ils ont souligné la nécessité d'aborder en collaboration et de manière diplomatique les problèmes politiques et de sécurité nationale qui ont une plus grande ramification dans la région de l'IGAD. Le porte-parole de l'armée soudanaise a fait référence au pourparlers et a déclaré que la décision était en échange des mesures de bonne volonté affichées par la partie éthiopienne pour empêcher l'infiltration d'éléments armés sur le territoire soudanais, selon un rapport du Sudan Tribune. Hier, nous avons appris qu'en RDC, deux journalistes, dont un Américain et un Congolais, ont été arrêtés le mercredi 13 juillet à Lubumbashi par les services de renseignement. Et après des rencontres avec les membres et proches d'un groupe armé, ils ont été transférés à Kinshasa, où ils sont toujours détenus dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements. Sur son accréditation, signée le 16 juin 2022 par le ministre congolais de la communication et des médias, le journaliste Nicolas Niarchos donc était autorisé à tourner des séries de reportages sur la conservation de la nature, l'économie et la culture. Il a été arrêté donc mercredi en même temps que son fixeur, donc un journaliste congolais. Selon les témoins, l'arrestation s'est déroulée dans un restaurant de la banlieue de Lubumbashi pendant que Nicolas Niarchos menait des interviews avec des hommes que certaines sources identifient à des rebelles. Selon la société civile locale, ces interviews entraient dans le cadre d'une série de reportages avec différents acteurs impliqués dans la gouvernance minière dans cette partie du pays. Âgé de 33 ans, l'Américain qui écrit pour The Nation et The New Yorker avait déjà réalisé d'autres reportages de terrain en RDC. Selon les sources de l'ANR, les auditions était encore en cours ce lundi matin sur les liens avec la nature des activités de ces deux journalistes. Pour le moment, l'ambassade américaine ne s'est toujours pas prononcée sur ce cas. Et avec ce genre de cas, justement, Kinshasa doit rester sur ses gardes et l'instance la plus dangereuse pour le moment en RDC qui peut permettre aux journalistes occidentaux de rencontrer comme ça des rebelles, c'est bien la MONUSCO. Dénonçant donc cette semaine un complot contre la RDC, le président du Sénat congolais, lors d'un meeting à Goma dans le Nord Kivu, dans l'est du pays, a demandé le départ des soldats de la MONUSCO. Pourtant, avec tant de moyens à leur disposition, la deuxième personnalité la plus importante de la RDC ne tolère plus la présence des forces onusiennes, tout comme la population congolaise. En RDC depuis 1999, la MONUC est devenue MONUSCO et ne représente pas un résultat satisfaisant au regard de la situation sécuritaire du pays et doit de ce fait donc quitter la RDC pour laisser place aux forces nationales de prendre leur destin en main, selon lui. Voilà la MONUSCO, donc elle doit plier bagage, comme l'a déclaré donc le président du Sénat de la RDC lors de son meeting. Vous le savez, la communauté internationale nous a déçus dernièrement lors du Conseil de sécurité lorsque donc on n'a pas voulu lever l'embargo sur l'acquisition des armes par la RDC. Je pense que tout est clair et que le complot est total, a-t-il ajouté. La situation sécuritaire en RDC s'aggrave, notamment dans la région de l'est du pays, et plusieurs groupes armés, dont les rebelles du M23, sont couramment en activité hostile et font de nombreuses victimes. Ce qui fait que ce n'est absolument pas le moment pour des journalistes occidentaux de sillonner le pays pour faire des reportages en tout genre. Dans des combats qui font rage, donc entre le M23 et donc les forces armées congolaises, les rebelles aurait pris le dessus, prenant ainsi le contrôle de la cité de Bunagana, qui fait frontière donc avec l'Ouganda. Et contrairement à son prédécesseur, qui demandait régulièrement le départ de la MONUSCO, Tshisekedi a plutôt montré jusqu'à présent de bonnes dispositions à l'égard de l'ONU, malheureusement. Tout comme les soldats français, ceux de l'ONU essuient de plus en plus des critiques des populations de leur pays de mission. Donc, et en général, ils sont taxés d'être infructueux malgré l'arsenal militaire dont ils disposent. Au Mali, au Niger et en Centrafrique, pour ne citer que cela, les soldats de l'ONU ont été priés de plier bagage. Cette situation remet en cause l'efficacité des missions de l'ONU en Afrique, la stratégie militaire et les clauses de ces missions censées maintenir la paix et la stabilité des pays demandeurs doivent être revues pour combler pleinement les attentes des pauvres populations qui gémissent sous le poids meurtrier du terrorisme. Selon Calixte Beyala à Emmanuel Macron, sachez que le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire, que le Cameroun n'est pas le Tchad et que le Cameroun n'est pas le Gabon. L'écrivaine panafricaniste interpelle le chef de l'État français à quelques jours de sa visite officielle au Cameroun. Emmanuel Macron est annoncé en visite officielle au Cameroun le 26 juillet, surfant sur cette actualité. Donc l'écrivaine Beyala vient d'envoyer un vibrant message au président français. Cher président, je suis heureuse que vous veniez dans mon pays d'origine, le Cameroun. Je connais donc votre fougue, votre intelligence et cette impertinence qui vous fait croire que vous n'êtes pas débiteur de l'histoire, qu'on se doit de tourner la page ou du moins que vous n'êtes pas responsable des crimes français commis en Afrique car vous êtes né bien après ces affreux événements, a écrit l'auteur. Pour nous, cette histoire est prégnante, elle habite nos cœurs blessés et nos âmes meurtries. Elle habite chaque cellule de nos corps et peuples, donc chacune de nos respirations. Elle se décline en de centaines de milliers de Camerounais morts. Elle a le visage de Om Niobe ou de Wangie, d'Afana et d'illustres anonymes morts parce qu'ils voulaient présider à leur destinée. Le souvenir de Kadhafi nous hante et ses bombes jetées aveuglément tuant des centaines de milliers d'innocents. Vous venez défendre les intérêts de la France et c'est bien, très bien. Mais allez-vous demander pardon au peuple camerounais martyrisé, questionne celle-ci. Que venez-vous donc faire par ici en ces temps troubles de notre histoire? Venez-vous presser donc par le désir de reconnaître les crimes de la France et présenter des excuses à ce peuple meurtri? Venez-vous établir des relations de respect mutuel? Venez-vous donc pour adouber un homme pour la transition au Cameroun? Cette transition dont on parle et qui n'est pas si lointaine. Sachez donc, Monsieur le Président, que le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire, que le Cameroun n'est pas le Tchad, que le Cameroun n'est pas le Gabon. Que venez-vous donc faire par ici en ces temps troubles de notre histoire? Garantir à certains l'accession à la magistrature suprême en contrepartie de nos richesses? Venez-vous tout simplement nous dire combien vous nous aimez? J'aime mieux cette dernière hypothèse, poursuit-elle. Mais je ne suis pas naïve, je sais déjà que vous apporterez dans vos bagages les Françafricains patentés, les Achille Bembe et bien d'autres pour vous faciliter la tâche comme ils ont tenté de le faire lors du simulacre de Montpellier. Votre chemin donc sera balisé, le cœur du Cameroun emporte déjà la lourdeur et pour l'ensemble des Camerounais vous êtes le malvenu, ils savent que vous ne leur voulez aucun bien. Pourquoi selon vous? Je vous souhaite un agréable séjour donc sur ma terre d'origine, en espérant qu'un jour la paix réelle existera avec ma terre d'adoption, la France. Bon séjour, a conclu Calixte Beyala.
Comment Bamako compte préserver sa part des recettes pétrolières? Réunis à Bamako, les membres du gouvernement malien sont unanimes. Pour le pétrole, le gaz ou encore l'hydrogène, l'exploitation se fera désormais via des contrats de partage de production. Mais si le potentiel y est, les campagnes d'exploration se font rares. Présent au Qatar Africa Business Forum qui s'est tenu en mars dernier, Cheguel Maïga, premier ministre du Mali, jouer la carte des mines d'or, des réserves de gaz, de la diversification des partenariats et de la stabilité sécuritaire progressive pour attirer les investisseurs étrangers. Un credo adopté 2 mois plus tard par le ministre malien des Mines et de l'Énergie à l'occasion du Mining Indiba, la grande masse de l'industrie minière organisée au Cap. L'Algérie rouvre ses frontières terrestres avec la Tunisie. En dépit de la réouverture des frontières aériennes, les flux notamment de personnes entre l'Algérie et la Tunisie demeurent encore bas comparés au niveau de 2019, les prix des billets en général très élevés sur le continent, ne favorisant l'option d'une mobilité par voie aérienne. L'Algérie et la Tunisie ont rouvert vendredi 15 juillet dernier les frontières terrestres constituées de 9 postes frontaliers séparant leurs territoires. S'étant retrouvés le 5 juillet dernier à l'occasion de la commémoration de l'indépendance de l'Algérie, les présidents des deux pays avaient émis la volonté commune de lever la mesure de fermeture des frontières, décrétée en 2020 à cause de la COVID-19. La Tunisie est l'une des destinations privilégiées des Algériens qui traversent la frontière pour des motifs touristiques, commerciaux ou familiaux. Des chiffres officiels révèlent qu'environ 3 millions d'Algériens avaient visité la Tunisie en 2019, soit un tiers des arrivants étrangers en cette année. Au Nigeria, la première usine de fibres optiques d'Afrique de l'Ouest ouvre ses portes dans l'état de Gain. Dans le cadre de ses ambitions de transformation numérique, le gouvernement fédéral nigérien veut accélérer la pénétration de la connectivité dans le pays. Toutefois, cette ambition est ralentie par l'insuffisance d'infrastructures dans le secteur des TIC. Dapo Abiodun, gouverneur de l'État de Gain au Nigeria, a inauguré le jeudi 14 juillet la première usine de fabrication de câbles de fibres optiques d'Afrique de l'Ouest. L'usine a été construite par le fabricant de fils et de câbles Coleman Technical Industries Limited en partenariat avec la société américaine Corning. Le directeur général de CTIL a expliqué que cette initiative est une réponse à l'appel du gouvernement fédéral pour un développement rapide de la pénétration de la numérisation. Le directeur général de CTIL a expliqué que cette initiative est une réponse à l'appel du gouvernement fédéral pour un développement rapide de la pénétration de la numérisation dans l'économie nigérienne. La société ambitionne de devenir la plus grande usine de câbles à fibres optiques d'Afrique d'ici septembre 2023. À cet effet, elle envisage de renforcer les capacités du pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et d'environ 50% du continent. Coopération bilatérale Afrique du Sud-RDC vers la construction d'une usine de montage de bus. L'Afrique est actuellement à l'heure du développement de l'industrie automobile. Avec la forte expansion que connaît le secteur en Afrique du Sud, le pays devient pour certains États une référence et son expertise pourrait beaucoup servir. Des pourparlers sont en cours entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud pour construire une usine de montage de véhicules de marque Volvo Marco Polo et bus marque au Congo. L'initiative fait partie d'une série de projets inclus dans un mémorandum de coopération annoncé par les deux parties, dont la portée est de développer le secteur des transports en RDC. Ces partenariats ont été initiés à l'occasion de la visite à Kinshasa en fin de semaine dernière du ministre sud-africain des Transports. La construction d'une unité de montage de bus est l'un des projets clés du gouvernement qui vise à redynamiser les activités de la société de transport du Congo en vue d'améliorer l'offre de transport public en commun.